suis content pour tout le monde qui est là ce matin, qu'on soit près du Seigneur, qu'on s'attache de plus en plus à lui. Je vais parler ce matin sur un sujet qui touche des millions de Français et qui est vraiment le sujet de l'heure. Je vais parler sur les vacances. Alors, quand je suis arrivé en France, peu de temps après, je suis allé à Toulouse. Et j'avais là, j'ai loué un petit local. Et petit à petit, les gens sont venus, il y avait des âmes sauvées. Et alors, on avait une petite congrégation. Et je me rappelle, c'était le premier dimanche du mois d'août. Alors, j'ai préparé le message, je suis venu à la réunion avec joie. Et il n'y avait pas de monde. La congrégation n'y était pas. Alors, j'attendais. Finalement, il y avait deux ou trois qui sont venus. Alors, parce que moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit qui a fait fuir tout le monde tout d'un coup? Alors, j'ai tourné vers ces deux ou trois et j'ai dit, mais comment se fait-il qu'il n'y a personne ici ce matin? Mais c'est le mois d'août. Et alors? Mais le mois d'août, on va en vacances. Je veux dire, tout ce monde est parti en vacances? Oui, oui. Et ils reviennent quand? 1er septembre. 1er septembre? Oh là là, tout un mois sans congrégation. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que le mois d'août où les gens prenaient des vacances. Toutes les boutiques se sont fermées, les usines étaient fermées. C'était vraiment la vie à ralentir à 100%. Alors, moi, je n'étais pas habitué à ça. En Amérique, on prend des vacances, mais pour une semaine seulement. Même aujourd'hui, une semaine. Alors, on le prend depuis le début juin jusqu'à fin août. Alors, bien sûr, il y a quelques personnes qui manquent, mais dans l'ensemble, tout le monde est là. Mais tout d'un coup, de voir que tout le monde était parti et que j'avais un mois pour attendre qu'ils reviennent. Et le pire, c'est quand ils sont revenus, ils avaient perdu leur joie, ils avaient perdu leur zèle, et quelques-uns ne sont pas même revenus. Alors je dis, ces maudites vacances. Peut-être quelques-uns de vous ont déjà entendu que j'ai dit des maudites vacances, je ne sais pas. Mais il m'est difficile de le dire des vacances maintenant, après toutes ces années, sans ajouter ce petit adjectif avant. Et vous comprenez maintenant, et vous comprenez pourquoi je les appelais toujours les maudites vacances. Nous allons voir ce matin un passage en hébreu, et je vais attendre un moment parce que je veux faire une introduction d'abord. C'est que Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il donnait un pays, mais pas pour lui. Il n'a pas donné à Abraham même une place pour planter sa tente. Il a dit, c'est pour tes descendants. Mais tes descendants vont hériter ce pays sur lequel tu marches maintenant, le pays promis. Alors, il y avait une famine en Égypte, et ils sont allés, toute la famille, pour joindre Joseph, qui était au préalable vendu comme un esclave, et il est devenu le premier ministre, et ils étaient tous bien reçus, une famille de 70 personnes. Et au lieu de retourner dans le pays promis tout de suite après la famine, ils ont décidé de rester. C'était agréable. Et alors, Ils sont restés, oui, quelques années, disons 400 années. Ils sont devenus un peuple. Un peuple au milieu d'un autre peuple. Mais les Égyptiens avaient peur d'eux. Ils en ont fait des esclaves. Et leur esclavage devenait de plus en plus pénible jusqu'à ce que Dieu envoie son serviteur Moïse avec son frère Aaron. Et là, par la puissance de Dieu, des fléaux et même la mort du premier-né, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec honneur. Ils ont dépouillé les Égyptiens qui leur ont donné des vases d'or et d'argent, les bijoux. Ils sont partis et se sont trouvés au bord, à la frontière du pays promis. Mais Dieu a dit, non, 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 vous n'entrez pas tout de suite, descendez vers le sud. Ils sont descendus, et là, il y a un passage qui amène directement à un mur, une montagne, un flanc terriblement haut, et il y avait la mer à leur gauche, et les Égyptiens qui ont décidé de les suivre, qui arrivaient avec le chariot, alors c'était la mort certaine. Mais non, Dieu a pourvu. Il a dit à Moïse, étends ta main, et avec la verge. Et il a fait, et Dieu a séparé les eaux. Ils sont passés sur la terre sèche. Ils sont arrivés de l'autre côté, à la frontière de nouveau du pays promis. Depuis 400 ans, ils ont attendu ce moment. Et Josué, qui était à ce moment à la tête parce que Moïse était mort, il a décidé d'envoyer des hommes pour espionner le pays, pour savoir comment il était en réalité. Est-ce qu'il y avait des arbres fruitiers? Est-ce qu'il y avait des champs qui portaient des fruits? Et en plus, est-ce qu'il y avait des villes fortifiées? Et ils sont revenus et leur avis était partagé. Deux d'entre eux, des 12, parce qu'il y avait un de chaque tribu, deux, Caleb et Josué, étaient donc à ce moment les deux qui ont dit, allons-y, nous allons conquérir ce pays. Mais les 10 autres ont dit, non, non, non. Vous savez, non seulement qu'il y a des villes fortifiées, mais il y a des géants. Vous savez, quelquefois, Dieu nous met à cœur quelque chose de merveilleux à faire. Et on a la vision de quelque chose d'insoupçonné, impossible. Et on dit, Seigneur, merci. On a la vision et le désir de conquérir pour lui. Quand tout d'un coup, les gens sont venus en disant, mais vous savez, il y a des problèmes là-bas. Est-ce que vous avez considéré ceci? Vous savez que ça vous attend là-bas? Et vous savez ça et ça? Et quand vos chers amis ont fini avec vous, vous décidez, il y a trop de géants. Ce n'est pas la peine. Et on est... On décide de ne pas conquérir ce que le Seigneur nous a offert. Vous savez, ils ne devaient pas avoir peur. Ils ont vu Dieu agir en Égypte. Ils ont vu la mer séparée. Ils savaient que Dieu était avec eux, qu'ils avaient la promesse donnée à Abraham, leur père. Et maintenant, au lieu de croire Dieu, ils ont dit non. Et en disant non, Dieu leur a dit, donc vous n'entrerez jamais dans ce pays. Vos enfants, oui, mais vous allez périr dans le désert. Et alors, à ce moment-là, le lendemain, sans la bénédiction de Dieu, quelques-uns ont décidé d'aller quand même. Et beaucoup d'entre eux sont morts. Il y a un moment d'agir. Et c'est à ce moment que je vous invite à regarder Hébreux 4, verset 1. Je vais demander à Gabriel de venir ici pour lire le premier verset, c'est tout. Il va s'asseoir là. Le premier verset, tout doucement, suivez-le.
Hébreux, chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu.
Merci. Quand on considère ce pays en Hébreux 4, d'ailleurs, il serait bien de lire tout le chapitre, car c'est le chapitre du repos. J'ai regardé dans la Bible et le mot vacances n'y s'y trouve pas. Mais il y a, comme les gens me disent tout le temps, mais il nous faut du repos. Ah, il y a le repos quand même. Et vous avez entendu, il a parlé de repos. C'est le chapitre du repos. Des vacances. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est un peuple, il y a trois catégories de gens. Avant de commencer, sachez qu'il y a les gens du temps de Josué, les gens du temps de l'apôtre qui a écrit, et le temps maintenant. Il faut mettre tous ces trois cas devant nous quand on étudie le chapitre. Commençons donc. Il a dit un avertissement, craignez donc de ne pas obéir au temps voulu, de ne pas profiter de ce moment. Pour eux, au temps de Josué, il y avait un moment précis. Ils devaient entrer quand les espions sont revenus. C'était le moment. Dieu était avec eux. Mais parce qu'ils ne sont pas entrés, le moment est passé. Craignons donc, dit l'apôtre, de peur que vous aussi, il vous arrive ce qui leur est arrivé au temps de Josué, en parlant aux Juifs à ce moment-là, parce qu'ils avaient aussi la tendance de ne pas entrer dans le repos, mais au contraire, de rester en dehors. Il y a un temps. Il y a un temps d'entrée. Il en est aussi vrai aujourd'hui. Combien de fois j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit, « Oui, je veux accepter le Seigneur, mais pas maintenant. » Vous savez quand il faut accepter le Seigneur? Quand le Seigneur vous parle. Quand Christ nous parle, quand l'Esprit nous parle. Doucement, c'est le moment d'accepter, c'est le moment d'agir. Je me rappelle un jour, j'étais avec l'agent qui a trouvé le local à Toulouse. Et je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il est venu à une de mes réunions. Et de toute façon, nous étions tous les deux dans sa voiture parce qu'il m'a conduit à la maison. C'était vers minuit et j'ai dit alors, est-ce que vous allez accepter le Seigneur maintenant? Oh, il a dit, c'est dur. Ah, j'ai dit, mais il est là. Tu entends sa voix. Il te parle. Est-ce que vous ne voulez pas maintenant? Oh, écoutez, il a dit, écoutez, pas ce soir. Une autre fois, oui, mais pas ce soir. Alors, j'ai cessé. C'était tard. Et je suis rentré. Quelques temps après, je ne sais pas, plusieurs semaines, je l'ai rencontré. Il m'a dit, pourquoi vous vous êtes arrêté? Il a dit, je n'ai jamais entendu la voix du Seigneur après. Il a dit, j'avais envie de, mais le cœur est vide. Jamais j'ai entendu sa voix comme cette nuit-là et je n'ai jamais accepté. À partir de ce moment, je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'il y a un moment où on dit pour la dernière fois, pas ce soir? Je ne sais pas, mais je sais qu'une chose, c'est qu'il ne faut pas négliger, parce que il y a la mort aussi. On ne sait pas quand on va quitter ce monde. Ça peut venir d'un moment à l'autre. On est en bonne santé, on croit. L'autre jour, j'ai appris que mon dentiste, il était en bonne santé, mais il a senti avec quelque chose là, il n'était pas tout à fait. Il va chez le docteur a dit, opération cœur ouvert tout de suite. Il n'attendait pas du tout ça. Vous savez, il y a des surprises dans la vie. On ne sait pas ce qui va nous arriver d'un moment à l'autre. C'est pour cela qu'il faut être toujours prêt. Et puis, il y a aussi le retour de Christ. Je vais toucher à ce sujet plus tard. Mais il a dit, craignez donc de ne pas profiter du moment où Dieu nous donne pour entrer dans ce repos, pour entrer dans cette bénédiction. Il ne faut pas... Le mot clé, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, c'est le moment favorable de ne pas le remettre à un autre jour. Et puis, je crois qu'il est temps de lire le deuxième verset.
Hébreux 4, chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
Vous avez entendu ce petit mot, la foi. Ça, c'est la clé de ce verset. Et ils ont entendu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le pays devant vous, entrez. Mais ils n'avaient pas la foi. Et l'apôtre a dit aux Juifs à ce moment, ils avaient aussi entendu la bonne nouvelle. Vous savez que quand Christ est mort, il y avait 500 personnes qui ont vu Christ vivant après sa résurrection, et ils l'ont vu partir dans le ciel, 500. Vous rendez compte, 500 personnes dans une ville comme Jérusalem, mais on ne parlait que de cela. On ne parlait que ce message de l'apôtre Paul, quand 3000 ont accepté le Seigneur. Puis après, il y avait 5000. Et je crois que quand l'apôtre a écrit cette lettre, il devait avoir au moins 10 000 personnes sauvées. Mais on ne parlait que de cela. La bonne nouvelle a été prêchée. Mais malgré le fait qu'il y avait peut-être 10 000, la majorité ne l'ont pas acceptée. Et ceci, c'est la marque à travers les âges. Il y a toujours ceux qui ont accepté, et ceux qui refusent, ils n'ont pas la foi. Ils connaissent le chemin. Regardez aujourd'hui, par exemple, dans les pays de l'Europe. Mais on célèbre Noël, et les enfants disent, mais qu'est-ce que c'est Noël? Mais c'est le jour où Jésus est né, Jésus le Fils de Dieu. Ah bon, donc on est au courant que le Fils de Dieu est venu. Et puis après, il y a Pâques. Mais qu'est-ce que c'est Pâques? Mais c'est le moment où Christ est mort sur la croix. Et puis après, on l'a mis dans un tombeau, mais 3 jours après, il est ressuscité des morts. On le sait, ça. Les gens, tout le monde le sait. Mais on ne veut pas savoir plus long. Et on ne met pas la foi. Vous savez, c'est une chose de connaître le chemin, de savoir que Christ est le chemin, et c'est une autre de prendre le chemin. Aussi longtemps qu'on ne met pas la foi avec notre connaissance est nulle. Personne n'est sauvé par la connaissance de la croix. On est sauvé par la foi dans la mort de Christ. C'est la foi qui sauve. Ce petit mot-là qui gêne tellement de monde, c'est de mettre toute sa confiance en Christ. Il dit que il y avait cette idée de mettre non seulement notre confiance en Christ, mais de compter sur lui, de nous diriger pas à pas dans la vie après. Il ne nous laisse pas après avoir accepté. C'est par la foi qu'on marche tout le long de la vie chrétienne. C'est une vie par la foi. Nous, les chrétiens, nous sommes des hommes de la foi. Et il faut mettre notre foi en exécution. pas simplement pour le salut, mais pour conquérir. C'était par la foi qu'on a conquis. Finalement, les enfants de ces gens qui n'ont pas eu le courage d'y entrer, ils sont entrés avec Josué. Ils ont conquis le pays. Soyons des gens qui marchent avec Christ, qui entrent. Et vous qui n'êtes pas sauvés, soyez des hommes de la foi. Mettez votre confiance en Christ. Je vais maintenant demander le troisième verset.
Hébreux 4, verset 3. Pour 3 et 4, donc. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour.
Alors ici, nous avons la base de notre salut. Nous avons vu dans le verset précédent le moyen, c'est pas la foi, mais la base. Sur quoi base notre foi? Mais ça, elle est basée sur le repos de Dieu. Je tâcherai de vous expliquer. Il a cité que Dieu a travaillé le septième jour, il s'est reposé. Vous savez que les Juifs, pendant tout l'Ancien Testament, étaient sauvés en entrant dans le repos du septième jour. Je m'explique. Dieu a travaillé pendant 6 jours pour créer la terre. Le septième jour, il s'est reposé. Mais avant le septième jour, le sixième jour, à la fin, c'était vendredi soir, il a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève sont tout de suite allés au lit. C'était la nuit. Et quand Adam et Ève se sont réveillés, c'était le sabbat. Et Dieu a dit, « Reposez-vous. » Et ils ont pu répondre, « Mais on n'a rien fait. » On est tout prêt. Reposez-vous dans mon repos. J'ai travaillé et je vous invite à venir dans mon repos. Ça, c'était le message pour les Juifs. Pendant tout l'Ancien Testament, ce que Dieu a demandé, c'est que les Juifs se reposent dans son repos. C'est-à-dire, le septième jour, ils devaient se reposer pour honorer ce repos. Et les autres jours et tous les jours, ils devaient aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force. Et les Juifs qui ont aimé Dieu, qui ont gardé le sabbat, ils étaient sauvés parce qu'ils sont entrés dans l'œuvre de Dieu, dans le repos de Dieu. Leurs péchés ont été couverts par le sang des animaux, mais leur péché n'a pas été enlevé, simplement couvert. Tout ceci, c'est une image de Christ. Dieu a pardonné les hommes pendant 4000 ans sur la base du sang des animaux, mais en réalité, il a pardonné parce qu'il savait que son fils allait venir mourir pour tout le monde. Christ est mort pour Adam et Ève aussi bien que pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'aime? C'est qu'il a dit aussi, tout est accompli. Qu'est-ce que Dieu nous invite? Il nous invite à entrer dans le repos d'une œuvre déjà accomplie. Christ a tout payé. Il a souffert pour nous. Il a payé notre dette de péché. Et la vie éternelle est un cadeau. Entre dans ce repos tant qu'il fait jour, tant qu'il est temps, parce que le temps viendra où ça sera trop tard. C'est arrivé aux Juifs au temps de Josué. Ils avaient un jour, ils auraient pu entrer. Ils ont laissé glisser. aujourd'hui, il y a un jour. Et aujourd'hui, on peut aussi passer la journée de dimanche, non pas en repos comme le sabbat, mais dans un travail pour le Seigneur. Le dimanche matin, on est au culte. Là, on vient avec la joie pour adorer le Seigneur, pour chanter les cantiques, pour rencontrer les frères, pour entendre le message. Mais l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? Eh bien, c'est libre. C'est libre non pas pour faire n'importe quoi, mais libre pour honorer et travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas l'après-midi, ce n'est pas pour faire le linge pour la semaine, pour réparer la voiture, pour couper la pelouse. C'est le moment où on peut aller visiter quelqu'un à l'hôpital. C'est là où on peut passer plus de temps dans la Bible qu'on n'avait pas le temps pendant la semaine. Et là, on pourrait vraiment s'approcher de Dieu. En parlant de cela, revenons à ce repos. Vous me dites ce matin, je comprends que le repos de l'âme, c'est le salut, qu'on doit entrer dans le salut maintenant. Mais nos corps, nous qui avons travaillé tout ce temps, on a besoin de repos pour le corps aussi, n'est-ce pas? Et ma réponse est oui. Ma réponse, je ne suis pas contre le repos. Attention, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a des vacances bénies et les maudites vacances. Et tout dépend comment on le fait. Et si pendant les vacances, on se dirige vers les plaisirs de ce monde. On est loin de Paris, personne ne voit, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Et alors, on entre dans les plaisirs de ce monde, on revient refroidi, on revient sans la joie. Mes chers amis, ça sont des vacances maudites. Mais si on prend des vacances pour s'approcher de Dieu, pour être dans sa présence, pour étudier la Bible, pour vraiment se reposer en lui et revenir plus joyeux, plus zélé que quand on est parti. Alors moi, je dis amen, bénis les vacances. Mais ce que j'ai dit pour les vacances, je dis pour toute l'année. Et si pendant l'année, vous êtes quelque part où vous serez gêné de parler de Jésus, gêné de donner votre témoignage, gêné de vraiment montrer que vous êtes chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir et ne jamais y revenir. Voilà ce que le Seigneur dit. Nous devons vivre tout le temps pour le Seigneur. Je n'entends pas des amen, mais je le dis moi-même, amen. Oh, vous savez, le Seigneur va venir bientôt. Très bientôt. Il va venir comme un éclair. La Bible dit qu'il vient si vite que personne n'aura le temps de se repentir. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le temps favorable. Le Seigneur parle. Quand le Seigneur parle à notre cœur en disant, entre dans le repos du Seigneur, entre dans la vie éternelle, il faut dire, Seigneur, je veux entrer. Même aujourd'hui, que ça soit un bon moment, je veux le connaître, je veux être sauvé. Peut-être ce matin, vous avez pensé que vous êtes sauvé, mais petit à petit, vous vous êtes rendu compte qu'il vous manque quelque chose, la vraie foi, la foi qui sauve, la foi qui croit tout, qui vraiment met toute sa confiance en Dieu. Si cela est votre cas, ce matin, c'est le moment. Peut-être que ça sera trop tard cet après-midi. C'est maintenant, aujourd'hui, c'est le moment d'accepter. C'était le cas pour les autres, c'est le cas pour nous. Prions Dieu. Oh, pendant que nous sommes dans cette attitude,